Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello les mamas, bienvenue dans le podcast qui parle de la maternité, la vraie. Celle qui épanouit, qui intrigue, qui fait peur. Celle qui bouleverse, qui construit, qui propulse en terre inconnue. Celle qui concerne tant de femmes que l'on entend si peu. Chaque semaine, l'une d'entre vous nous raconte son histoire sans filtre. Est-ce qu'elle a toujours rêvé de devenir mère? Comment s'est passée sa première grossesse? Quelles ont été les joies et les épreuves qu'elle a traversées? Qu'est-ce que la maternité a changé dans sa vie? Des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chère mamas, future mamas ou pas mamas du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Kali a vécu une enfance sous les violences psychologiques de sa mère. Jamais à la hauteur, toujours rabaissée, elle tente de couper les ponts avec sa génitrice à l'âge adulte. Se pose alors la question de devenir mère à son tour avec toutes les angoisses que cela implique. L'envie de créer sa propre famille prend le dessus et le projet bébé est enclenché. Après des années d'attente et de remise en question, elle tombe enfin enceinte d'une fille. Les traumas refont surface pendant la grossesse avec cette peur de reproduire le même schéma qu'elle a vécu avec sa mère. Kali devient maman et tisse au fil des mois le lien avec sa fille avant de donner naissance à une deuxième petite fille. Elle construit sa vie de famille, celle dont elle a toujours rêvé plus jeune, bien qu'elle doit toujours faire face à son anxiété. Dans cet épisode, Kali nous raconte comment les paroles d'une mère peuvent laisser des cicatrices à vie, comment elle essaie d'élever ses filles en jonglant avec ses démons et d'accéder au bonheur qu'on lui a toujours dit qu'elle ne méritait pas. Bonne écoute.
Hello Kali.
Hello.
Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas.
Bah, merci de m'avoir invité.
Avec grand plaisir. Alors toi, tu es la maman de deux petites filles, elles ont quel âge?
Alors la grande a 3 ans et demi et la petite vient d'avoir 1 an.
Ok, on va revenir avant que tu deviennes mère. Toi, plus jeune, quel regard tu portais sur la maternité? Est-ce que c'est un sujet qui t'a toujours intéressée ou pas vraiment?
Si, bah en fait, j'ai toujours su que j'allais être maman. Enfin, c'était une évidence pour moi. C'était voilà, dans mes projets, je me voyais plus grande, adulte. J'avais forcément des enfants. Et d'ailleurs, ouais. Je me voyais généralement avec deux enfants. Donc voilà,
c'est pas okay.
Et non, ça a toujours été une volonté.
Tu t'es occupée d'enfants quand tu étais plus jeune ou pas?
Bah, je m'occupais de mes petits cousins, petites cousines. Et puis, bah, j'ai fait assez tôt des babysitting, en fait, l'été ou pendant les vacances ou les week-ends. Et puis, j'en ai fait pendant plusieurs années. Donc, oui, ça a toujours baigné dans le milieu, de la garde d'enfants et des enfants, quoi.
Ouais. Et alors, comment le sujet est arrivé au sein de ton couple? T'avais quel âge? Comment ça s'est passé?
On a toujours su tous les deux qu'on allait avoir des enfants. Et on s'entendait bien. Donc, on s'est dit, il ne faut pas le faire ensemble. Et c'était après une période assez difficile où j'ai fait une grosse dépression. Et je ne sais pas, c'est comme un besoin en moi de construire ma famille, en fait. D'avoir mon petit noyau et de me recentrer sur moi, sur ma vie. Et sur mon futur un peu aussi, parce que bah, les enfants, ça représente le futur. Donc ouais. Voilà, j'ai commencé à en parler. Bah, c'est moi qui en ai parlé en premier à mon conjoint. Et puis, bah, il a dit « Ok, d'accord, on y va ». Et puis, on a lancé les essais.
Alors, on va parler peut-être de cette dépression qui a eu un rapport aussi avec cette décision de la maternité.
Oui.
Ça venait d'où? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu?
Et bien, en fait, j'ai été maltraitée psychologiquement par ma mère, donc toute mon enfance, l'adolescence et début de l'âge adulte jusqu'à ce que je stoppe. Et alors, c'est de la maltraitance psychologique, donc il n'y a pas eu de violence physique. Par contre, ouais. C'était les mots, les critiques, la manipulation, la culpabilisation, du chantage. Les silences, en fait, faisaient très très mal. Donc l'emprise, moi je vois vraiment ça comme, quand je repense à mon enfance, à mon adolescence, c'est comme s'il était sous un dôme, comme si ma mère avait une main qui m'emprisonnait en fait. Et en fait, ça, enfin, à l'âge adulte, ça s'est amplifié parce que j'ai commencé à prendre des décisions par moi-même qui n'étaient pas dictées par ma mère. Et donc là, la scission a été encore pire. Et un jour, j'ai consulté une psychologue parce que je pensais que le problème, c'était moi, que moi, j'étais la mauvaise personne, que j'étais égoïste, j'étais vraiment mauvaise. Et c'est pour ça que j'ai consulté. Je me suis dit, il faut que je change. Et petit à petit, en fait, j'ai pris conscience lors de ces séances que c'était pas forcément moi le problème, c'était plutôt ma mère et son comportement. Et donc là, j'ai dit stop. Je lui ai dit, ma mère, je lui ai dit non, je reviens pas, en fait, je peux plus revenir vers toi. J'ai dû faire le choix de plus lui parler.
Ok.
C'était pas un choix facile.
Mm.
Et en fait, là, elle s'est mise à nous harceler, nous verser. Et ça m'a fait une grosse, grosse dépression parce que ça a développé beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, jusqu'à être harcelée chez moi, devant la porte de mon appartement. Donc là, j'ai fait une très grosse dépression, j'ai même fait des tentatives de suicide. Et alors c'était plus des appels à l'aide. Enfin, je voulais juste dormir et pas me réveiller. Alors, c'est pas gay, mais... Est-ce que c'était vraiment mourir? Je ne sais pas, mais c'était vraiment m'endormir et plus ressentir ce que je ressentais. Et voilà, donc là, c'était une période très, très compliquée pour le couple, là, sinon forcément, parce que lui, il a dû supporter tout ça et ça a dû être très compliqué aussi pour lui. Et j'ai consulté, j'ai pris des antidépresseurs qui m'ont aidé. Et quelques mois après, en fait, quand j'ai commencé à retrouver un peu moi, ma personnalité, où j'ai compris que je crois que ce n'était pas le problème, mais. Et j'ai eu envie de m'en sortir. Et là, il y a eu une idée, du coup, de devenir maman qui a émergé.
Pour t'aider à te reconstruire aussi, peut-être
J'ai compris que ma famille, ce n'était pas ma famille idéale. Et que je n'ai jamais eu d'être maternelle. J'ai eu une mère, mais elle n'a jamais été maternelle avec moi. Donc, il n'y a jamais quelqu'un qui m'a maternée. Et donc, je pense que c'est vraiment là où j'ai envie de moi devenir en fait un peu l'être que j'ai pas eu, mais pour quelqu'un d'autre. J'ai toujours eu conscience qu'il fallait pas que je remplace mon enfant futur par moi qui a été blessée. Ça a toujours été une ligne que j'ai voulu suivre.
Oui, qui viennent pas combler.
J'ai toujours fait, dès le début, j'ai su qu'il fallait que je fasse attention à ça. C'était vraiment le côté où j'ai pas eu de noyau. J'ai pas eu de noyau où tu te sens bien, tu sais, le petit cocon, c'est de famille. Moi, j'ai pas eu ça, donc du coup, je pense que j'ai vraiment voulu construire. Et voilà, on me l'a pas donné cette chance, moi, je vais le faire en fait. Ça va être mon noyau à moi.
T'as des frères et sœurs ou t'as vécu ça toute seule
Non, j'ai pas de frères et sœurs, malheureusement, j'aurais beaucoup aimé et je pense que ça aurait peut-être changé l'histoire.
Et t'as des exemples de ce que ta mère. Pouvais faire quand tu étais petite, qui était violent pour toi
Déjà, je sais que les premiers mots, les premiers qualificatifs qui me viennent à l'esprit quand on m'a parlé de moi depuis toute petite, c'est tu es égoïste. Moi, c'est le premier mot que je me suis fait avoir entendu dans ma vie. Alors, c'est pas forcément celui-là, hein, mais ce que je veux dire, c'est celui qui m'a impacté. Et du coup, oui, je me souviens que j'étais toute petite et ma mère me disait, de toute façon, tu es égoïste. Après, en condition, t'es mauvaise. Personne ne veut de toi. Personne ne voudra jamais de toi. Personne ne t'aimera. Des choses comme ça. Et puis, j'étais jamais assez bien pour elle. Tout ce que je faisais, pourtant, je faisais beaucoup d'efforts. Ça n'était jamais à la hauteur de ce qu'elle exigeait. Donc, elle me rabaissait à chaque fois. Et je sais que quelque chose qui m'a marqué aussi beaucoup, c'est que ces finances pouvaient être presque pires des fois que ces mots. J'ai déjà été costaud. Mais je sais qu'en fait, elle était très boudeuse. Donc, elle faisait la tête pendant des heures, voire des fois des jours. Dès que j'étais petite, je me souviens, c'était 10 ans déjà, où en fait, elle faisait la tête et du coup, il fallait que j'aille m'excuser. Ça, il fallait que je m'excuse, je m'excuse pour qu'elle accepte de me reparler. Mais le problème, c'est que je ne savais pas pourquoi je m'excusais. Donc, elle ne m'expliquait pas, je m'excusais, mais moi, je me souviens dans ma tête, vraiment, la sensation de « je m'excuse, mais pardonne-moi », mais je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas ce que j'avais fait. Et ça m'a duré très, très longtemps, le fait que je devais m'excuser très régulièrement. Il y a aussi des exemples où, quand on rencontrait des gens dans la rue, elle racontait des bouts de mon histoire qui n'étaient pas forcément les meilleurs. Et notamment le fait que j'ai été en accident à la naissance. Et, okay. Et donc ça, elle répétait à chaque fois, bah oui, bah, c'est un accident, on n'est pas prévu. Voilà, donc elle rajoutait toujours toute son histoire. Et en fait, j'ai appris il y a 2-3 ans que, bah non, en fait, j'étais voulée. Mon père m'a dit que, bah non, en fait, il avait prévu d'avoir un enfant, il avait fait des essais, et puis bah, ma mère était tombée enceinte et c'était content, quoi. Oui. Donc, je suis construite toute ma vie jusqu'à partir du temps où je pensais que j'étais en accident. Et pareil, elle racontait comme ça. Et en plus, ce qui fait mal aussi, c'est que bon, moi, je le savais, mais c'est surtout j'étais, elle racontait aux autres, en fait, dans la rue, des gens comme ça qu'on connaissait oui, pas du tout. Mmh. Et hop, c'est pas elle, c'est un accident là-bas. Donc, ça fait un peu l'étiquette sur le front.
Ouais.
Et puis, le fait que je devais mourir à la naissance. Donc, ça, elle l'a raconté à tout le monde aussi. Parce que du coup, apparemment, d'après elle, en gros, chaque contraction, je remontais dans l'utérus. Et du coup, ils ont dû me faire sur de force. Et à force, je m'étais épuisée. Donc, j'arrivais plus à respirer. Donc, ils ont dû me réanimer. Et donc, ça, pareil, elle racontait à tout le monde en disant bah, elle, c'est un accident. Et elle aurait dû mourir à l'essence.
Ouais, compliqué de se construire dans ce vocabulaire.
C'est ça. Bah, ça fait beaucoup d'étiquettes sur le front. Ça fait accident, mourir à l'essence. Donc, limite, pourquoi est-ce que je suis là, vivante? Égoïste, mauvaise personne, et personne ne veut de toi, bah, du coup, c'est dur de se construire ouais, avec ces étiquettes-là.
Est-ce que tu as déjà eu une conversation avec elle sur tout ça ou...
Alors, oui. Et c'était quelques mois avant de dire stop. Ça allait déjà plus trop parce que quand mes parents se sont séparés, elles ne supportaient pas que je passe du temps avec mon père. Donc, si elle apprenait que j'allais déjeuner avec lui, elle m'a fait la tête pendant plusieurs heures où, bah, pareil, j'ai dû m'excuser. Et après, bah, si je voyais une soirée, c'était elle me faisait la tête plusieurs jours, enfin, c'était de plus en plus long. Et un jour, je me souviens très bien, en été, j'ai osé commencer à lui répondre en disant non, mais écoute, voilà, j'ai essayé de faire ça vraiment diplomatiquement, parce que ça ne sert à rien de s'énerver pour tout le temps. Mais voilà, pour la première fois de ma vie, j'ai essayé de lui répondre et de lui donner des arguments pour lui dire que peut-être son comportement n'était pas exceptionnel et que peut-être elle avait tort et que j'allais peut-être des circonstances atténuantes. Et là, en fait, vraiment, moi, ça m'a fait la sensation d'un boulot. C'est même pire. J'ai envoyé une petite phrase en disant « Hey, peut-être que toi, tu as un petit peu tort. » Et là, je me suis pris un raz-de-marée, un tsunami. Mais de critiques, de méchanceté, qui m'a plus bas que terre. Et ça a été très dur de m'en relever, surtout qu'elle m'a fait la tête après pendant des semaines. Ou à cette époque-là, je n'avais pas compris encore la maltraitance, enfin, la violence, ce qu'elle pouvait faire. Donc, du coup, pendant des semaines, j'ai ramé pour qu'elle me reparle. Mais là, ça a été déjà un peu une scission parce que c'était très violent ce que j'ai reçu et ce qui fait que je n'y arrive plus. En fait, les mois qui sont passés après et les années. Et pour moi, ça me terrorise de lui parler parce que je sais ce que je peux me prendre dans la tête, en fait.
Mmh. Et t'en parles donc avec ton conjoint?
Oui, bah lui, c'est mon rock.
Ouais.
C'est grâce à lui que je suis là, juste plus là. Il n'était pas là. Je sais même pas comment il a fait pour traverser cette histoire. Voilà, ça nous a laissé une cicatrice dans le couple, forcément. Mais non, vraiment, il sait tout de ma vie, c'est celui avec qui c'est mon confident, et enfin, tout en tout.
Ouais. T'as une belle-mère ou pas de son côté?
Bah, du coup, j'en ai deux. J'ai la compagne de mon père et du coup, sa mère à lui.
Ouais. Et t'as des relations tout à fait saines?
Oui, ça se passe très très bien. Elles sont adorables. Franchement, il n'y a rien à dire sur leur sujet. C'est juste, tu vois, au fur et à mesure des années, j'ai essayé de retrouver en fait un être maternel pour me sentir ouverte, chouchoutée et justement maternelle. C'est le mot qui ressort toujours chez moi. Et du coup, bah, je me suis des fois avec des personnes un peu plus âgées que moi, ou voilà, où je me suis en des années, ou voilà. Je me suis un peu co-investie ou avec mes belles-mères. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Ce que je demande, c'est un amour, c'est qu'on a une relation qui dépend avec la naissance et puis avec l'enfance, etc. Donc, je pense que ça n'arrivera jamais. Donc là, maintenant, je me protège. Dès que je rencontre quelqu'un soit plus âgée, soit qui a l'air de me materner. Et comme ma sage-femme, après ma grossesse, enfin ma deuxième grossesse, est adorable. Et du coup, c'est vrai que dans ma tête, toujours, il y a un petit truc qui me dit « Ah, j'aimerais bien qu'elle devienne mon aide maternelle, mais c'est pas possible. »
Ouais, alors, tu prends la décision de devenir mère. Est-ce que tu avais des craintes par rapport à ce que toi, tu avais vécu à ton tour ? On dit parfois que quand on vit certaines violences, on peut les transmettre à son tour, à sa descendance. Est-ce que tu avais peur de ça ?
Je me souviens pas vraiment. J'ai toujours su qu'il fallait que je fasse autre chose. C'est vraiment.
Ouais.
Quand on a pris la décision de devenir parent, vraiment, c'est pas ça qui était dans ma tête. C'était plus la joie, voilà. Commencer une aventure, en fait. Parce que c'est un peu le début de la parentalité. c'était pas dans ma tête à ce moment-là. Et je pense que ça a pas pu rentrer dans ma tête parce que, du coup, on a eu des soucis. On a mis quelques années avant d'avoir notre premier bébé. Et on a appris qu'en fait, mon conjoint était stérile. Donc, on a dû passer par la PMA et par des lignes de spermatozoïdes. Donc, ça nous a pas mal occupé les années d'essai. Donc, ça ne me préoccupait pas. C'est juste que, sur le recul, c'était pas facile à vivre. Toutes ces années, ces annonces et ces examens, parce qu'il y en a beaucoup, et puis pas forcément les protocoles. Ça nous a aidé, en fait, à déconstruire un peu la parentalité qu'on nous avait inculquée enfant. On est plus centré dans la parentalité bienveillante et tout, et on a déconstruit quand même pendant tout ce temps où on a beaucoup réfléchi à ce qu'on voulait devenir comme parents, pourquoi on voulait un enfant, pour partager, découvrir le monde. Donc ça nous a aidé là-dessus, mais c'est vrai que moi, il a fallu attendre que je tombe enceinte du coup de ma première fille et que j'apprenne que c'était une fille parce que j'étais persuadée que c'était un garçon. On voulait garder la surprise. Et en fait, au fur et à mesure des mois, il y avait un truc en moi qui se disait, on a un prénom garçon, on a un prénom garçon. Et puis, trois mois avant, je me suis dit, quand même, on n'a pas de prénom fille au cas où.
Ouais.
Donc, j'ai commencé à chercher des prénoms filles, et il n'en trouvait aucun. Et là, on a dit, on va demander, parce qu'on a envie de savoir. Et là, j'ai appris que c'était une fille. Alors, super, je vois, merveilleux. Et puis, à peine quelques jours après, un truc qui me tombe sur la tête, quoi. Et là, ça a commencé à cogiter à fond. J'ai commencé à faire des angoisses, etc. Je ne voulais plus. je voyais l'accouchement qui arrivait, la date. Je ne voulais plus avoir d'enfants. Je me suis dit, ça y est, c'est une fille, je vais tout reproduire. Je vais être une mère maltraitante, je vais être toxique. Et donc là, j'ai consulté un psychologue de la maternité, qui était génial. Elle a vite su rassurer. Heureusement, parce que j'avais très peur aussi, c'est qu'en commençant à la consulter, où elle m'a dit que je n'allais pas devenir comme ma mère, et que ça allait prendre beaucoup de temps, et qu'en fait, j'allais accoucher, et que j'allais pas avoir déjà fait un travail suffisant sur moi.
Mais... D'accord. Et quand tu disais que ça a mis des années pour que tu puisses... tombée enceinte, que ton mari était stérile. Comment tu l'as vécu, ça ? Parce que j'essaie de m'imaginer à ta place, mais quand on me dit toute ta vie que tu ne mérites pas et que tu n'es pas bonne pour quoi que ce soit, que tu n'arrives pas à tomber enceinte, est-ce que ça s'est revenu aussi dans ta tête à ce moment-là ?
Oui, c'est clair. Avant de savoir que du coup, mon conjoint était stérile, moi, je suis en surpoids. À l'époque, j'étais en plus. Tous les discours des médecins, des gynécos, c'était le pouls, en fait. C'était vous, madame, qui avait un problème. C'était moi, quoi.
Ouais.
Donc, c'est dur de dire qu'en fait, on n'arrive pas à donner un bébé à son conjoint. On n'arrive pas à donner un bébé à sa famille. Et ça rejoint, je ne mérite pas. Je suis pas assez bonne pour être maman parce que je suis une mauvaise personne. Donc oui, ça a réactivé tout ça. C'était compliqué. Et quand on a appris du coup qu'en fait le problème entre guillemets se situe plus du côté de mon conjoint, j'ai pas ressenti vraiment un soulagement parce que c'était pas ça. Et en plus, il a fallu quand même que c'était un moment difficile à porter pour lui. Donc voilà, il a fallu que je l'épaule. Mais d'un côté, ça a été pas mal parce que depuis quelques années, c'était principalement moi qui étais épaulée parce que j'ai eu la dépression, etc. Et puis bah, tout le monde pensait que c'était de ma faute si je ne tombais pas enceinte. Donc, bah, ça s'est inversé un peu le processus. Je trouve que c'était pas mal pour le couple. Et,
ouais.
Et lui, de toute façon, il m'a dit direct qu'en fait, il était content que ça soit lui le problème. Parce que du coup, si ça avait été moi à cause de la stérilité, bah, ça aurait provoqué, je pense, en moi des grosses. Je sais pas comment dire ça, mais bah, ça aurait activé beaucoup de choses, quoi.
Ouais.
Donc voilà, après, bah, de toute façon, il y a toujours une sorte de culpabilité qui est en moi tout le temps, chaque instant de ma vie. Et donc, même si je savais qu'on m'avait les preuves, on m'avait les discours de mes gynécos et tout, que du coup la stérilité venait au rejoint, bah du coup c'était quand même un peu de ma faute.
Ouais, ouais, c'est ancré, c'est gravé en toi de toute façon.
Oui, je dois porter le poids de tout, mais vraiment, c'est à chaque instant de ma vie.
Ouais, alors comment s'est passée cette première grossesse? Donc tu disais que quand tu as su que c'était une fille, donc ouais. Là aussi panique à bord, c'est tu ça. T'es dit je vais tout reproduire. Et physiquement, comment ça s'est passé?
Physiquement, ça va déjà à l'annonce. C'était bah, une joie complète. J'ai même pu faire l'annonce au papa en surprise. Donc, parce que forcément, quand il y a la PMA, on sait qu'il y a une prise de sang. Donc, on s'attend au résultat. Mais j'ai réussi quand même à lui faire la surprise. Donc, j'étais contente. Et non, initial, les premiers mois de grossesse, nickel. Après, les petits mots de la grossesse, des fois un peu moins sympathique. Mais forcément, c'était top. C'est pas une période que j'aurais envie de reproduire tout le temps. Voilà, j'aime pas forcément être enceinte, mais c'était agréable. C'était agréable d'avoir du ventre et d'avoir une raison pour avoir du ventre, de ne pas être regardée ouais. Parce que je suis en surpoids, mais parce que bah, du coup, il y a un bébé dedans. Voilà, ça va te faire grandir en moi, nickel. C'était vraiment l'annonce en fait, du fait que c'était une fille, il y avait la chamboule et tout.
Ouais. Et tu l'as annoncé à ta mère aussi?
Alors, j'ai rien dit à ma mère. J'ai attendu que du coup, ma fille soit née. Puis on a eu entendu quelques semaines, deux mois, je pense. Et là, on a juste envoyé un message en disant que, voilà, pour du coup, elle était née. Et voilà, c'était.
OK.
Bah, j'ai dit, bah, elle est née tel jour et elle s'appelle comme ça. Et voilà.
D'accord.
Oui, justement.
Et comment tu as réussi alors à travailler sur cette crainte de reproduire les choses sur cette future petite fille qui allait arriver?
Ben, la psychologue m'a dit déjà que si déjà je me posais des questions, c'était déjà bon signe.
Ok.
C'est déjà une première étape. En plus, j'ai genre à me remettre en question très très souvent. Mmh. Donc ben, ça aide aussi. Puis aussi le fait qu'il ben, y a mon conjoint. C'est voilà, et comme il m'a dit, il me soutient et il ne me laissera pas faire du mal à nos enfants. Et là-dessus, j'en parle très souvent aussi avec lui. Je suis toujours suivie, enfin, par le même psychologue parce qu'on a des mails. Mais voilà, j'ai toujours des contacts avec des professionnels. Et en fait, ça s'est fait assez vite. J'ai eu une grosse crainte, mais quand j'ai commencé à en parler avec la psychologue, elle m'a rassurée très vite en me disant ouais. « Non, mais vous n'allez pas être pareil. » Donc, je dis pas que... Je sais que je ne vais pas être pareil, mais j'ai eu peur aussi de tomber en fait, dans l'extrême inverse. Mm. Donc, ça aussi, ça, il a fallu que je me rassure. Et après, non, ça a été relativement vite sur le fait que je n'allais pas devenir mon mère toxique. Et... par contre, il y a des fois, ça réactive des choses quand j'élève la voix pour mes filles, ou des fois que je suis un petit peu plus énervée, et ben, je me mets culpabilisée direct. En fait.
Ouais.
Voilà, c'est toujours le côté comme ça. Mm. Mais non, ça va. Là-dessus, ça va plutôt bien. C'est le plus gros problème, on va dire, qui se vient de ça, c'est que j'ai peur que mes filles m'aiment pas avec. C'est plutôt ça qui est difficile.
Ouais.
Moi, j'ai confiance un peu en mon rôle de mère parce que je suis épaulée par mon conjoint, parce que je sais que je peux demander de l'aide à des professionnels et parce que j'ai compris ce que je voulais être comme mère. Je veux être une mère bienveillante, Voilà, on a fixé les cadres, on a fait la fille cododo, l'allaitement, on a fait la DME, c'était libre, tu vois, tous les trucs, comme ça.
Ouais.
Et on a fait l'essai, la banque des signes, enfin voilà. Et donc ça, tout ça déjà, ça n'a strictement rien à voir avec ce que j'ai pu vivre enfant. Donc déjà là-dessus, en fait, c'est pour ça, dès que j'ai commencé à allaiter, faire cododo, enfin tu vois, direct, ça part. Pas du tout dans ce que j'ai vécu moi, enfant, même que là-dessus, ça m'a rassurée. Non, comme ma mère m'a répété, toute mon enfance, que personne ne m'aimerait, bah, ça, c'est très ancré en moi. Et pour moi, mes filles, un jour, elles vont se réveiller pour se dire « Wow, en fait, ça doit être chill.
Ouais.
Elle est horrible, j'en veux plus. »
T'en parles avec tes filles?
Non, pas trop, pas de ça. Enfin, pas de cette peur-là. Je fais vraiment attention à ce que toutes mes peurs, c'est les miennes. Je serai ce que je leur répète parce que ça m'arrive souvent de craquer. Je pleure souvent et voilà. Et je leur dis, les émotions de ma mère, c'est les émotions de ma mère. Donc, c'est à moi, c'est les miennes. Donc, t'as pas à t'en occuper.
Ouais. Et tu leur dis, par exemple, que toi, ta maman...
Ouais. J'ai été obligée d'en parler à mon aîné. Ça a été très, très dur. Parce que là, elle grandit, elle commence à poser des questions. Elle a compris que mamie, c'est la maman de papa. Et là, c'est le papa de papa. OK, il y a le papa de maman. Mais alors, du coup...
Ouais.
Et donc là-dessus, elle commence à jouer, qu'elle approchait des questions. Et du coup, j'ai dit à mon conjoint, il faudrait qu'on lui en parle. J'étais stressée à chaque fois qu'elle posait une question comme ça. C'est comme un animal là, qui est pris au phare. Est-ce qu'elle va poser la question? Et donc, non, on a pris un petit peu les devants parce que j'avais envie de maîtriser entre guillemets la conversation la première fois.
Ouais.
Comme ça, les prochaines fois, ça ira plus vite. Enfin, ça sera plus simple pour moi. Et on lui a expliqué un petit peu, voilà, que du coup, moi, j'avais. Voilà, on a tous des géniteurs génitrices, mais que du coup, on ne la voit pas parce qu'elle a été très toxique, et elle a fait beaucoup de mal à maman. C'est pour ça que maman, ça lui faisait mal des fois d'en parler. Après, 3 ans et demi, elle a fait « Ah oui, d'accord. »
Oui, elle passe à autre chose.
C'est moi qui me faisais un monde.
Ok. Et alors, comment s'est passé ton premier accouchement? Est-ce que tu avais fait un projet de naissance?
Oui, j'avais fait un projet de naissance très, très précis.
Ouais.
Vraiment, le plus physiologique possible, le plus naturel possible. Je m'étais pas formée, mais voilà, j'allais avec ma sage-femme lors des préparations. C'était à fond naturel. Et puis, 2 semaines avant la date... théorique normalement d'accouchement, du coup, il allait consulter à la maternité parce que je ne sentais plus du tout le bébé bouger. Et ils nous ont vite rassurés en disant « Ah, c'est si le cœur bat, déjà, youpi !» Mais en fait, le cœur ne battait pas bien. Donc, ils ont dit « Bah non, en fait, il faut qu'elle sorte de votre ventre. » Donc là, j'ai été déclenchée avec les dentelles, là, d'hormones. Donc, ça a été assez long, le déclenchement.
Ouais.
C'est pas mal d'heures où il ne se passe pas grand-chose. Et donc, attention, il y a eu j'aurais donné la feuille du projet de naissance. On me dit,
ouais, c'est raté.
On prenait la feuille, Ah si, ils ont essayé de tester ma fille, l'accouchement voix basse. Parce que moi, j'avais très peur de la césarienne. Parce que, j'avais peur de ne pas être la première personne. Enfin, pas la première personne, mais le premier parent, en gros, à voir dans ma fille et à prendre dans les bras, etc. En fait, j'avais très peur parce que je me disais, ça y est, le lien il va être foutu. Enfin,
ouais,
voilà. Donc, oui, ça réactive peut-être. Juste là maintenant, avec 3 ans et demi d'après, donc c'est vrai qu'à l'époque ça me faisait très peur. Donc, j'avais dit surtout pas de césarienne. Donc, on a testé à fond l'accouchement voix basse. Moi qui voulais pas forcément de péridurale ou alors le plus tard possible parce que je voulais bouger dans les couloirs. Voilà, de toute façon, chaque ligne que j'avais notée, hop, puis la barre. J'avais pas le droit de bouger parce qu'ils n'arrivaient pas à détecter le cœur. Et je sais que je pouvais même pas bouger mon poignet, qu'ils ne pouvaient pas bouger du tout.
Ah ouais.
Ils se foutent ces lits. Et donc, les contractions, bah, en plus, déclenchées par moi, sont peut-être un peu plus fortes. Et j'ai une horreur. Ça, bon, j'avais très, très mal. Donc, j'ai demandé la péridurale très rapidement.
Ouais.
Et puis après, bah, il s'est passé encore pas mal d'heures. Et non, en fait, à chaque contraction, son cœur, il ralentissait. Donc, ils ont essayé vraiment tout faire pour que ça passe en voix basse, mais à force... Puis moi, j'étais épuisée, ça faisait 24 heures que j'y étais.
Ouais, tu m'étonnes.
Bah, j'avais pas mangé, j'avais pas dormi, parce que bon, on peut pas dormir quand on a aussi mal. Enfin, moi, en tout cas, j'ai parti. Et puis, bah, du coup, comme je sentais pas le bébé bouger la veille, ça faisait, je sais pas, au moins 36, 48 heures, j'avais pas dormi, vraiment. C'était... Donc, j'étais épuisée. Donc là, et vraiment, dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi j'en suis là? Qu'est-ce que je fais là? Et donc là, on est parti en césarienne. Au bout d'un moment, on s'est moqué. C'est bon, enfin, allons-y.
Ouais.
Et c'était particulier quand même. Quand, parce qu'en plus, c'était pile le jour du confinement. C'est le premier.
Ah oui.
Donc, c'était une atmosphère un peu particulière. Il y a tous les soignants qui parlaient que du discours de Macron, comme qu'on allait tous être confinés, etc. Alors, j'ai eu la chance d'avoir mon conjoint tout le temps avec moi, mais je sais que ouais, c'était très bizarre comme ambiance.
Ouais. Et donc, tu l'as allaitée, ta fille?
Oui, bah, ça, c'était par contre. C'est pour ça aussi que j'avais peur de la césarienne, parce que j'avais entendu que ça pouvait en effet être un peu plus compliqué pour l'allaitement. Et donc, j'avais fait aussi pas mal de séances, enfin, pas mal, j'avais fait d'autres, avec les conseillères en lactation, pour qu'elle me donne des conseils. Et quand je suis redescendue du coup de la salle de bébé, et ben il m'a mis ma fille au sein et j'ai direct été très bien. Donc c'était chouette. Et après non, en fait l'allaitement, bah, il y a eu des petites péripéties entre guillemets où voilà, elle a mis un petit peu de temps à la montée de lait, des choses comme ça, mais vraiment ça a été assez fluide.
Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu ta fille contre toi? Est-ce que tu as repensé encore à des choses de ton enfance à toi?
Quand je l'ai vu, déjà, on m'avait annoncé que c'était un très grand bébé. Ok. Et vraiment, il fallait pas me servir d'une naissance, prendre que du un bras. Ok. Et en fait, je la vois parce qu'elle était dans une petite couveuse. Et je la vois et je me dis, hop, c'est pas mon bébé, ça. Il dit, oh, y en a un autre. Non, c'est le stand de la pièce, mince. Et parce qu'il était toute petite, j'ai vu ses pieds, c'était des minuscules. Et du coup, je me dis, mais c'est pas mon bébé. Vraiment, j'ai eu un sentiment comme ça. Déjà, après, j'étais grosse, j'ai vu ses vraiment. J'étais la tête dans le côté, donc du coup, ils m'ont mis sur moi et tout, et je me souviens pas très bien. Donc, c'est décevant, je n'ai rien en fait. Déjà, c'est pas mon bébé. En plus, dans la pause, je sors de la salle de réveil, j'ai mal. J'ai pas trop conscience de ce qui se passe autour. Et après, on me ramène dans une autre chambre, on laisse la petite, ça, du coup, avec le papa, parce qu'il fallait qu'il reste une journée en néonate. Et après, du coup, je la retrouve, mais pareil, enfin. De toute façon, cette journée-là, je ne me souviens pas bien. Et puis les jours d'après, je me disais, wow, enfin, c'est qui? C'est mon bébé, ouais. Enfin, tu avais ta raison, enfin ma raison qui disait, ok, c'est mon bébé, ok, je suis maman. Je suis maman, vraiment, ouais, je suis maman, ah bon? Et je m'en occupais et tout, mais ça a mis quelques jours et puis. Forcément, au bout d'un moment, tu sors un peu du coltard et tu te rends compte que le lien, c'est pas c'est comme ça, comme on a entendu parler des fois, là, l'amour inconditionnel. Et du coup, forcément, tous les doutes reviennent.
Ouais.
Et heureusement, du coup, c'est pour ça aussi que j'avais pris la psychologue de la maternité, et je m'étais très longtemps que j'ai avec elle, parce que comme ça, elle passe dans le service, en fait, plusieurs fois par semaine, et donc elle est venue me voir. Et pareil, elle m'a rassurée, elle m'a dit que ça pouvait mettre un petit peu de temps, c'était pas grave en fait. Enfin, ça faisait quand même de moi une maman, ça faisait quand même d'elle ma fille. Et que on allait tisser notre lien, il fallait nous laisser le temps. Enfin, c'est ce que j'ai bien aimé qu'elle disait, c'est tout à fait vrai, c'est une rencontre, c'est une personne nouvelle en fait, c'est pas une extension de soi, on a beau l'avoir portée ça reste chez une personne qu'on rencontre. Et bah, quand on rencontre quelqu'un dans la rue, il nous faut un petit peu de temps.
Ouais.
Et bah là, même si bah, c'est plus aisé, bah non, il faut un petit peu de temps. Donc, voilà. Et puis, bah, quand la veille de la sortie, tu sais, ils font la petite prise de sang pour je sais plus ce que c'est qui teste. Mais enfin, bref. Et en fait, ils sont prêts, ma fille. Et je l'ai entendu pleurer. Et là, je me suis dit, mais oulala, horrible, qu'est-ce qu'il me faut à ma fille? Et du coup, direct, il y a eu un truc qui est venu en moi qui, genre, je l'aime, en fait.
Mmh.
Donc, voilà, il y avait quand même un lien, ça m'a rassurée. Et puis, alors, je me suis dit, ok, bon, c'est pas inné, mais je l'aime.
Mmh.
Et après, par contre, le lien s'est construit vraiment de jour en jour, toutes les deux. On a appris à se connaître, on a appris à se découvrir. Et c'est quand elle a eu 6 mois où, en fait, j'ai ressenti là une vague d'amour, en fait. Alors, ça m'a posé question plusieurs fois. Ça a été plusieurs fois le sujet de séance avec la psychologue. Je me disais, est-ce que c'est normal de ne pas ressentir la vague?
Ouais.
Et là, puis, bah non, quand elle avait 6 mois, je ne sais plus comment ça arrivait, mais je les ai regardés et waouh, submergée d'amour. Et là, ça y est, c'était mon magie, mon bébé. Quoi.
Ouais. Et alors, vous décidez de faire un deuxième enfant quelques temps après?
Oui, bah, suite à mon histoire, c'était hors de question que du coup notre enfant soit à la chez lui.
Ouais.
Vraiment, je ne voulais surtout pas ça. Et puis moi, ça m'a, outre bah, la maltraitance, ça m'a manqué beaucoup, en fait, d'avoir quelqu'un de mon âge à côté de moi. Et puis mes conjoints me diraient, enfin pareil, et lui, il ne voyait pas avoir un enfant unique. Mmh. Alors après, forcément, avec nos petits soucis de PMA, il fallait qu'on s'y prenne un peu tôt, parce que du coup, il faut quand même attendre un an après la naissance du premier pour redemander, du coup, repasser du coup en PMA. Donc, ça, de toute façon, dès qu'elle est née, la première, je savais qu'on allait retourner en PMA. Donc, on a refait les démarches et tout, qui était beaucoup moins aisé, du coup, avec la première, je voulais la faire garder, etc.
Ah oui.
Et donc, on a refait tout le processus, mais non, on savait qu'on allait avoir un deuxième enfant, en fait.
Mmh. Donc, tu découvres ta deuxième grossesse, au bout de combien de temps?
Eh ben, on a fait qu'une insémination, en fait, lors des essais PMA. Le gynécologue m'a dit que je faisais de l'adénomyose, du coup, suite à ma première grossesse, ce qui pouvait expliquer du coup, les douleurs lors des cycles et que ça pouvait ralentir encore plus la conception d'un enfant. Donc, Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas trop attendu après la naissance de la première. Pour réenclencher les essais. Et parce que pour nous, c'était sûr qu'on allait en avoir pour plusieurs essais, limite pour plusieurs années.
Ouais.
Voilà. Et donc, on fait la première insémination. Et là, bébé, positif.
Direct.
Alors, wow. Et oui, ça m'a fait bizarre parce que j'ai pas eu le temps. Parce que la première, on a eu le temps de se projeter. Voilà, comment on va devenir parents, qu'est-ce qu'on veut. Comme
t'avais fait combien d'essais pour la première?
3 inséminations, donc c'est pas beaucoup. Hein.
Ouais.
Comparé, alors c'est pas quand tu les vis, les échecs sont difficiles, mais comparé à plein de couples, on a eu extrêmement de chance. Comme quoi, finalement, je n'étais pas si infertile que ça. Hein.
Ouais.
On m'a créé mon surpoids. Et donc l'annonce de la deuxième grossesse, c'était un peu une revanche sur tous les médecins qui disaient qu'à cause de mon surpoids, je n'allais pas y arriver. Et pour aussi le gynéco, on avait dit qu'avec la dénomyose, il ne fallait pas s'attendre à grand chose. Donc non, nickel, grossesse. Alors si, elle nous a fait peur, parce que j'ai perdu du sang plusieurs fois du premier mois, donc j'ai été faire plusieurs contrôles, donc on a eu pas mal peur là-dessus. Et puis finalement, non, c'est très bien développé. Et puis alors, en fait, c'est mon aîné qui m'a appris que j'étais enceinte, parce que 2 jours avant la prise de sang, elle vient me voir et puis elle fait « bébé, bébé ». Et elle est rentrée à mon ventre.
C'est fou, ça. Ouais. Ça arrive souvent.
Parce qu'on ne lui en avait pas parlé, en plus. Mm. Parce que, bon, voilà, première essai, insémination, un enfant de 2 ans, ça, elle comprend rien, quoi. Donc, là, je viens me voir. Et puis, 2 jours après, je me dis « oh, mais en fait, ça se trouve, elle avait compris. » Mais de toute façon, elle a direct tilté bébé dans le ventre de maman, ok. Faisait des câlins en vente, c'était très, très bon.
Et donc là, pour cet accouchement, tu t'es dit, bon, je retente un projet de naissance ou je laisse faire
Oui, alors non. Je n'ai rien rédigé. Non, je me suis dit, on prendra les choses comme elles viennent. Et j'ai même limite, je m'étais dit, bon, la péridurale, en fait, hein, parce que je voulais attendre le plus tard possible.
Ouais.
Parce que toujours, mon envie de déambuler dans les couloirs. Et donc, ben, c'était quand même mon souhait. Et mais bon, tout ce qui est physiologique, je me suis dit, oh, on verra. Et ça se passe souvent bien, tant mieux. Si ça se passe mal, mais tant pis. Et puis, non, en plus, j'ai pris beaucoup de poids pendant cette grossesse. Donc, déjà, moi qui étais en surpoids, c'était pas top. Donc, je me suis un peu fait prendre en traite par l'hôpital qui me suivait. Où, en fait, un mois avant l'accouchement, ils m'ont dit finalement, je ne suis plus. Il faut aller à l'autre hôpital là-bas.
Ah oui?
Ah, ok, super.
À cause du poids?
Tout. Ouais.
Ok.
Bon, en fait, donc, voilà. Et. Donc, je suis allée à l'hôpital, il a fallu refaire tous les rendez-vous, tu sais, aller chez les machin. Et,
mais parce que quoi? Parce qu'ils n'ont pas le niveau nécessaire pour prendre ça en charge?
Oui, c'était ça, en fait. Ce que je n'ai pas trop apprécié, c'est que je n'ai pas pris tout le poids le dernier mois. Donc, ça faisait un moment, je leur demandais en plus, est-ce que ça va? Enfin, voilà, c'est même moi qui parlais de mon poids pour être sûre, en fait. Si... Enfin, est-ce que c'est bon? Voilà, ouais. Je voulais juste savoir si... Parce que je savais que j'étais en classe 2, donc je voulais savoir... Si c'était OK. Et non, donc ils m'ont... En plus, j'ai appris, vraiment, c'est la sage-femme de la maternité qui m'a appris parce qu'ils m'ont envoyé un courrier, ils ne m'ont pas expliqué. Enfin, bref, okay. C'était vraiment pas bien fait de leur part.
Donc, il fallait une maternité de niveau 3?
Oui, c'est ça.
OK.
Donc, voilà, donc j'étais chez là-bas. Et en fait, ils ont découvert que j'avais beaucoup trop de liquide amniotique et que le bébé prenait trop de poids à la fin. En fait, elle grossissait beaucoup trop vite. Et que moi aussi, ça me faisait gonfler. Donc, ils ont déclenché 2 semaines aussi avant l'accouchement. Et ils ont déclenché. Alors là, par contre, comme j'avais déjà eu une césarienne, il pouvait déclencher que sans hormones, en fait. Donc, après, il y avait la césarienne qui me planait au-dessus de la tête. Hein.
Ouais.
On l'essayait à base, mais ils ne s'y croyaient pas trop.
Ouais.
Et puis, le déclenchement, etc. Bon, j'ai un petit peu déambulé dans les couloirs, mais pas beaucoup. Et puis, après, le déclenchement, il a pas servi à grand-chose. Donc, ils ont mis une perfusion d'ocytocine.
Ouais.
Et là, par contre, ça... Donc, je suis tombée dans la journée où toutes les femmes accouchent à moitié en même temps. Donc, du coup, ils étaient un peu débordés. Donc, j'ai eu très, très mal parce que j'ai demandé entre le temps où j'ai demandé la péridurale, où j'ai dit, bon, là, je supporte plus, il me la faut. Et au moment où je l'ai eu, c'est passé 3 heures. Donc, c'était très compliqué. Et j'avais très mal. C'était horrible. Et en fait, le problème, c'est que quand ils m'ont posé la péridurale, j'ai eu la douleur. J'étais, parce que moi, quand j'ai eu mal, je tremble comme ça. Donc, c'est pas top pour le temps fou, je me réveille dans le dos. Et du coup, en plus, ça a réactivé ce que m'avait dit l'ancien clinique, comme quoi j'étais beaucoup trop en surpoids, enfin en obésité du coup, et que, en gros, la péridurale, il ne pouvait pas me la faire parce que j'étais trop grosse. Et donc là, pendant que le monsieur adorable voulait me piquer, je disais, oh là là, ça va pas bien se passer, je suis trop grosse, vous allez vous louper, etc. En plus, je tremble comme une feuille. J'ai des contractions qui sont là, je ne sais plus combien, mais franchement, toutes les minutes, même plus. Et il a fait le geste comme ça. Et quand j'ai repris mes esprits, je me suis dit, comme quoi, je suis peut-être en surpoids, mais j'ai réussi à avoir un bébé, enfin deux du coup. Je suis pas si infertile que ça. Et la péridurale, il m'a dit que ça s'était hyper bien passé.
Tu as pu accoucher par voie basse ou...
Oui, j'ai réussi, oui, nickel. J'ai eu, j'ai eu les deux accouchements du coup. Et, d'avoir mon bébé, du coup, sur moi. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est la différence, si c'est le fait que j'étais déjà maman, on a peut-être moins de peur, etc. Mais il y a eu... c'était pas le tsunami d'amour, mais vraiment, il y a eu le lien qui a commencé à se construire dès qu'on l'a posé sur moi.
Ouais. Bon. Et qu'est-ce que ça t'avait fait de savoir que c'était une deuxième petite fille?
Là, c'était juste de la joie.
Ouais.
C'était que de la joie. Très content.
Alors, te voilà maman de 2 petites cocottes. Comment t'as trouvé tes marques avec 2
Eh bah, ben, pas super.
Ouais.
Ouais, non, je trouve que l'arrivée de la deuxième, du coup, ça a été encore c'est un chamboulement au niveau de la vie de famille et de la vie de couple, qui est en fait l'arrivée de la première. Mmh. Parce que la première, on avait quand même du temps chacun pour soi, et puis finalement du temps à deux.
Ouais.
Et là, l'arrivée de la deuxième, en fait, on n'est plus deux à devoir composer avec un autre être. On est trois. Et tout le monde a ses particularités et elles ne se ressemblent pas du tout. Ça, on savait que ce n'était pas des copies conformes, mais on ne pensait pas qu'au niveau rythme, elles n'allaient pas du tout être.
Calées.
Voilà, c'est ça. Pas du tout calées, c'est ça, c'est le mot. Donc, c'était chamboulement. En plus, ma deuxième grossesse, c'est quand même pas ultra bien passé du côté psychologique, parce que ma mère a refait surface et nous a menacé tout du long.
Ah oui.
Donc, c'était très, très dur. J'ai crise de panique, crise d'angoisse et beaucoup de pleurs pendant ma grossesse. Donc, t'as aussi la culpabilité. On te dit, tu sais, les bébés, c'est des épines. Donc, j'avais l'impression que j'étais en train de
transmettre.
Ouais. Ouais, c'est ça. Mon bébé, il est même pas encore né. Il est déjà avec sa mère qui fleure, je sais pas combien d'heures par jour. Donc, pauvre bébé, quoi.
Ouais.
Et donc, ça s'est un peu calmé pour la naissance. Voilà, on a plus trop de nouvelles de ma mère. On a mis un peu les stops, etc. Mais on a toujours l'épée de la Damoclès au-dessus de la tête qui revient un jour et qui nous fasse du mal. Mais maintenant, on a notre famille à protéger, en fait. Donc, on est plus vindicatif aussi.
Ouais. Et les menaces, qu'est-ce qu'elle vous fait comme menace?
C'était principalement sur. Demande un droit de visite pour ma fille aînée. Parce que du coup, on ne lui a pas dit que j'étais enceinte de la deuxième et on ne lui a pas prévenu que j'avais accouché sur une deuxième petite fille. Donc, théoriquement, elle n'est pas au courant. Après, bon, c'est bien, les nouvelles, ça fait vite aller.
Ouais.
Et. Donc, c'était des menaces judiciaires. On a reçu des lettres de son avocate. Parce qu'elle dit que ça allait. Enfin, voilà, elle voulait nous envoyer parmi devant le juge et pour demander un droit de visite.
Donc, toi, t'as dû prendre une avocate aussi pour.
Oui, on a dû prendre une avocate. Et puis, voilà, avec l'avocate, on a mis le voilà. On a dit que la maltraitance que j'ai subie, il n'était pas question pour nous d'avoir un droit de visite.
Et donc là, c'est plutôt temps calme en ce moment avec. Ta mère.
C'est plutôt ton calme, ouais. Parce que, comme je t'avais dit, moi, je n'ose pas dire des choses à ma mère. J'ai toujours peur de me reprendre plein de trucs dans ma future. Donc, mon conjoint, là, au bout d'un moment, j'en ai marre. Et, parce qu'elle, elle disait que c'est parce qu'elle nous aimait qu'elle voulait voir notre fille. Et donc, on lui a dit que ce n'était pas de l'amour, en fait. C'est du chantage, etc. Même dans des lettres qu'elle avait pu envoyer. On sentait une part d'elle qui voulait récupérer sa petite fille.
Reprendre le contrôle sur toi,
ouais,
quoi.
Un petit peu. C'est ça, ou même reporter. Moi, en gros, elle a échoué à me contrôler totalement. On va peut-être essayer avec la petite, quoi.
Et alors, comment tu vas, toi, aujourd'hui, par rapport à tout ça?
J'ai toujours l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Je pense que je l'aurai toujours. J'ai toujours ça. Le problème, c'est que ça m'a aussi créé. Une enfance maltraitée, plus tous les soucis à l'âge adulte, les soucis d'âge adulte et surtout tout ce qui est menace, harcèlement. Et ça m'a provoqué beaucoup de phobie, d'angoisse, d'anxiété. Donc ça, c'est pas évident. Puis je suis pas heureuse en fait d'être une maman anxieuse, quoi. Je trouve que mes filles, elles me voient suffisamment pleurer et c'est pas gay pour elles d'avoir une maman comme ça. Donc là-dessus, je culpabilise beaucoup sur ça.
Ouais.
Mais voilà, pour mon couvent, tu les relâches ici en me disant que d'un côté, au moins, je leur apprends à exprimer leurs émotions. Donc, ça fait une bonne base. On parle des émotions couramment. Et puis, j'ai pas le choix. De toute façon, une fois de craquer.
T'es toujours suivie?
Oui, toujours. De toute façon, moi, je pense que toute ma vie, j'aurai un suivi. C'est parce que des fois, je peux en avoir besoin. Ça réactive. Voilà, si mes filles grandissent, des fois, elles s'éloignent un peu, de leur papa, maman, ou des choses comme ça. Et du coup, ça réactive ma peur de ça y est, même plus.
Ouais.
Et donc, cette peur-là, j'ai besoin des fois de me redire, non, c'est bon. il y a d'autres. Après, c'est devenu aussi des thérapies pour moi, sur mon anxiété aussi à traiter. Et non, je pense que j'aurais besoin de tout le temps une thérapie, même si des fois c'est une ou deux séances par an, etc. Mais je préfère me dire ça, et puis c'est pas honte en fait de consulter.
Non, bien sûr.
si c'est important, si on en a besoin. Puis il ne faut pas hésiter aussi à changer de thérapeute, parce que des fois, ça ne passe pas avec certains, ou des fois, on n'a plus envie d'avoir cette méthode-là. Parce qu'il y a plein de méthodes de thérapie. Donc voilà, moi, j'ai essayé plusieurs, et en fonction de ce que je ressens, il est plus ou moins dans une certaine direction. Et voilà, moi, je pense que ça me fait du bien. Ça me fait mon petit espace aussi. Puis vu que j'ai personne récemment pour en parler, à part mon conjoint, je trouve que c'est pas mal aussi, parce que lui, forcément, il n'est pas neutre. C'est logique. Ouais. Et puis, il n'a pas aussi à subir toutes mes confessions. C'est pour ça aussi, ça fait mon espace à moi, mon rôle psychologique.
Tu n'as pas pu en discuter avec d'autres mères à qui c'était arrivé aussi, d'autres femmes sur les réseaux sociaux
Non, je ne connais personne qui a vécu la même chose que moi.
Ouais. Tu en as parlé, toi, sur tes réseaux ou pas?
Oui. Ouais. Alors, j'ai décidé dernièrement, je pense que ça doit faire partie. En fait, j'ai eu 31 ans. Et toute ma vie, j'ai vécu en me disant que de toute façon, je ne dépasserai jamais les 30 ans. Je serai forcément morte à 30 ans.
Ah, moi, c'était 27 comme les stars du rock. Ah,
moi, j'avais visé un petit peu plus, histoire d'avoir les enfants, tu vois. Mais ouais, non, je m'étais dit que je ne vais jamais dépasser 30 ans. Et là, le fait d'avoir 31 ans, ça m'a mis un coup, en fait. Je me dis, waouh, mais en fait, ça fait 30 ans que j'irigne un peu dans la basse fréquence de ma mère, que j'ai passé plus de 20 ans, du coup, sous l'emprise. Là, ça fait 10 ans où j'essaye de m'en sortir. Enfin, j'ai deux enfants, j'ai un mari, enfin voilà, on a des super projets de vie. Et c'est le moment de vivre, en fait. Tu ne survis plus, là. Maintenant, tu vis, c'est vraiment ta vie. Et donc, j'ai eu envie de commencer à en parler. Donc, j'en ai parlé un petit peu, sur les réseaux. Et si, il y a plusieurs personnes. Après, je ne connais pas trop leur histoire, donc je ne sais pas. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'en effet, elles ont peut-être pu vivre un peu la même chose, même au niveau de l'anxiété. Mais voilà, j'ai besoin, en fait, de libérer la parole. Et puis de dire que ça existe, en fait, comme situation de la maltraitance psychologique, elle existe, elle se voit pas, mais elle fait beaucoup de mal. Ça laisse des cicatrices invisibles, mais très, très profondes. Et alors, je dédouane absolument pas les violences physiques, parce que je pense que ça va être une horreur. Moi, j'ai pas vécu ça, donc je peux pas en parler. Mais le problème, vraiment, des violences psychologiques, c'est qu'on est seul. Et ça crée une solitude. Quand tu les vis, même après, t'es seule face à ça. Et en plus, comme là, c'est de l'emprise, tout le monde croyait que ma mère, elle était juste très fusionnelle avec moi. Moi, c'est ce que tout le monde me dit.
Ouais.
C'est non, mais t'étais juste fusionnelle. Mais non, en fait, j'étais pas fusionnelle, j'étais raccordée par des fils, en fait. Et je pouvais pas m'en aller. Et donc, c'est ma volonté de dire peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ou qui vivent la même chose, et leur dire qu'ils ne sont pas seuls, que on peut s'en sortir. Alors oui, ça laisse des cicatrices à vie, mais voilà, on peut essayer d'aller de l'avant.
Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à une petite fille, ou à toi d'ailleurs, cette petite fille que tu étais sous emprise, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui?
Déjà, je lui dirais, si c'était moi-même quelqu'un d'autre, en fait, je lui dirais que c'est pas normal. C'est pas elle, en fait, le problème. Mmh. C'est pas elle qui est une mauvaise personne. Vraiment, la première chose, je la rassurerais sur le fait qu'elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas égoïste, que c'est une enfant, elle a le droit de faire des erreurs, mais on n'a pas le droit de lui en vouloir à ce point-là. Je pense, oui, je la rassurerais, et en fait, j'essayerais de l'accompagner vers la sortie, c'est ça. C'est essayer de l'aider à couper les fils, lui faire prendre conscience que ce qu'elle vit, c'est pas normal, et qu'elle a le droit d'en sortir, et que ce serait même mieux qu'elle en sorte, et que si elle a pas les moyens de le faire, parce que quand on est vraiment petit, c'est pas possible.
Ouais.
Et peut-être essayer d'en parler, parce que moi je sais que ça a été une surprise pour tout le monde, parce que jamais j'ai montré que ça pouvait être un problème. Au contraire, tout le monde croyait que j'étais très fusionnelle avec ma mère et qu'on s'adorait. Alors qu'en fait, moi, je m'étais constituée un masque. Donc peut-être si c'est ce qui m'a fait survivre. Peut-être que cette petite fille, elle a besoin aussi de se faire un masque pour se protéger. Voilà, elle montre ça aux yeux de sa mère, elle montre ça aux yeux du mien. Et elle, elle grandit, pas dans son cocon à elle. Mais je sais pas, c'est pas évident. C'est vraiment une situation très, très difficile parce que tous tes gestes sont contrôlés, toutes tes pensées sont contrôlées. Et si t'en as une, tu te mets à culpabiliser direct. Et ta petite voix intérieure, bah moi, c'est devenu ça, en fait. J'ai intériorisé tout ce qu'on a pu me dire. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, je me dénigre, je me dévalorise, je culpabilise.
Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
Ah, ça a changé beaucoup de choses et ça m'a apporté beaucoup. Vraiment, je pense que je ne serais pas vivante s'il n'y avait pas mon conjoint, mais je ne serais pas comme ça si je n'avais pas une fille. Déjà, ça t'apprend le lâcher prise et tout. Alors, ça.
Le fameux.
Là, quand tout est carré, quand je contrôle absolument tout. Mmh. J'aime tout contrôler parce que comme ça, je sais un peu dans quel terrain je suis et quelle émotion un peu je vais donner. Et ben voilà, c'est foutu. Donc là-dessus, c'est pas mal. Je travaille tous les jours sur le lâcher prise et puis ça t'apprend à. Tu relativises en fait. Ok, c'est pas comme tu veux, mais. Pose-toi, souffle, et puis regarde, en fait, ça se passera bien. C'est des bénignes. Et ça m'a appris aussi à. C'est pour elle aussi que je me reconstruis et que je fais beaucoup de travail pour aller mieux. Parce que j'ai envie qu'elle ait une maman heureuse, une maman sereine. Ça, c'est très important, la sérénité. Et des fois, tu as envie d'enfouir un peu tout ce qui est avec sous le tapis, mais. Mais je me force à le ressortir et à le. Comment dire, tu sais, quand. Enfin, le surmonter, en fait. Mmh. Et ça, c'est grâce au fait d'être maman. Puis j'ai un but aussi dans la vie. J'ai un but de vivre, moi, et j'ai le but aussi d'être une bonne maman et de leur donner ce que j'ai pas pu avoir, moi. Et de leur permettre de grandir, même si le monde n'est pas toujours merveilleux, mais de voir en fait le côté merveilleux du monde.
Mmh. Est-ce que tu arrives justement, toi, à accéder à ton bonheur ? Il y a encore du boulot ?
Il y a du boulot.
Ouais.
À l'heure actuelle, il y a encore pas mal du boulot. Donc, déjà, je ne me dis pas que je le mérite. Donc, je pense que là-dessus, il y a du boulot. Je suis encore très, très petite voix négative. Et de devenir mère une deuxième fois, ça m'a tellement chamboulée que, avec aussi toutes les menaces que j'ai pu avoir de ma mère pendant ma grossesse, que ça m'a un petit peu trop réactivé certaines émotions négatives. Et donc, j'ai plus d'anxiété et plus d'angoisse qu'avant. Donc là-dessus, non, je suis pas en phase, je suis en phase. J'essaye de me reconstruire justement, j'essaye de remonter. C'est aussi pour ça que j'ai besoin de libérer un peu ici ma parole et la parole. Mais après, on construit aussi des super folies. Voilà, comme je t'ai dit, j'ai eu 31 ans. C'est bon, maintenant, c'est ma vie, je veux la vivre. Et je veux être heureuse, je veux réussir à saisir le bonheur, pas le truc inatteignable, par exemple. Qu'on cherche tous, mais vraiment plus savourer chaque petit instant. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a essayé de faire, par exemple, le tour de l'Europe. On part avec nos filles l'année prochaine et on va vivre pour nous et pour profiter, en fait.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman vendéenne ?
Alors, rien du tout. On est arrivé il y a 10 mois en Vendée. Et on s'y plaît pas du tout. C'est aussi ça qui joue sur notre départ. Et en plus, on avait mis un pied en Vendée quand on s'est fait harceler par ma mère, donc ça n'a pas aidé.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré en Vendée ?
Ouais. Non, c'est compliqué la situation. C'est pour ça aussi, psychologiquement, c'est pas facile. Parce que moi, j'ai comme une... Enfin, je me rappelle un peu trop ma mère, là. Mais j'ai une bulle autour de la maison. Et des fois, il me faut une force mentale incroyable pour passer la porte d'entrée. Donc ça, ouais. Et du coup, c'est pour ça. On sort, mais en fait, je peux pas dire qu'il y a des endroits que j'aime. J'adore aller à la mer, mais on n'est pas très, très près. Et Donc, ouais, non, je suis désolée. Le petit chemin, c'est ma maison, en fait. C'est
mon, très bien.
Mon cocrine et on passe des super moments tous les quatre.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille?
Alors, les projets rien que pour moi, c'est déjà aussi me trouver un but professionnel. Parce que ma vie professionnelle était un petit peu trop mise en pause et a beaucoup trop souffert de mes phobies. Donc, c'est reprendre un peu ouais, la vie de femme, pas la vie de mère. La vie de mère, c'est bien, mais la vie de femme, vraiment, et plus le côté professionnel. Et après, comme bah, du coup, j'ai toujours des phobies au niveau du monde du travail et que je me mets très facilement la pression, c'est aussi passé par des causes humanitaires, en fait. Et j'ai envie de donner le sourire autour de moi. Donc, faire des petites actions, des trucs et voilà, de faire des... parce que le bonheur oui, c'est pas le gros soleil là, qu'on n'arrivera jamais à atteindre. C'est vraiment les petits trucs du quotidien et où j'essaye de bah, d'aider les gens à avoir un petit peu de bonheur. Donc ça c'est ce qui parce que ça me fait moins de pression en plus au côté humanitaire. Donc c'est mon but à moi et puis bah si peut-être essayer de pas faire taire ma petite voix intérieure, mais essayer de la mettre un petit peu plus positive et rebalancer sur l'estime de moi. Ça, j'aimerais bien m'aimer un peu plus, ça serait vraiment bien. Et c'est important, puis même par rapport à mes filles, là, ça y est, la grande, elle commence, bah, elle répète tout, forcément, puis elle commence à bien comprendre ce qu'on dit, même quand on ne lui parle pas. Et donc, moi qui passe mes journées à dire que je suis nulle, je suis moche, je suis grosse, je vois rien, etc., bah là, je peux plus le dire. Alors, c'est un peu frustrant, mais il va falloir que j'apprenne à dire ça autrement. Enfin, ou pas dire, justement. Il faut que j'apprenne à pas dire. Donc, ça, c'est les buts à voir. Et puis, alors, bah, au niveau familial, bah, c'est continuer à être tous les quatre dans notre cocooning, bah, parcourir du coup, les routes d'Europe et faire découvrir à. Nous découvrir aussi des choses, nous, en tant qu'adultes, et puis faire découvrir le monde à nos filles, toutes les belles choses qu'il y a, et aller à la rencontre de plein de gens.
Merci beaucoup, Cali.
Bah, merci à toi.
Voilà les mamas, c'est un épisode qui s'achève. Merci pour votre écoute. On se retrouve dès lundi prochain pour découvrir une nouvelle histoire qui parle de la maternité, la vraie. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application de podcast préférée et rejoignez la communauté Hello Mamas sur Instagram. À très vite !